c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les 2 Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et voilà, très heureux de vous retrouver pour cette première émission hebdo de l'année 2023. Je voudrais déjà vous souhaiter au nom de toute l'équipe de la radio une très très belle année 2023 à tous. Merci en tout cas et bien de nous être aussi fidèles tout au long de l'année. Au sommaire donc de cette émission aujourd'hui, on va avoir deux coups de cœur ciné. Le premier consacré au film Les Survivants. Guillaume Renusson nous rejoint dans un tout petit instant. Le deuxième, il sera consacré au film 16 ans. Philippe Lioré, Thélo Azaïs et Sabrina Devoix seront avec nous en fin d'émission. Nos coups de cœur télé consacré à Vortex qui débarque ce soir sur France 2. Camille Clarisse et les co-scénaristes de la série seront donc avec nous pour en parler. C'est le retour de la série Le Code, saison 2, mercredi sur France 2. Daniel Njolobé sera également notre invité. Et demain soir, vous allez pouvoir découvrir Année Zéro, la nouvelle fiction événement d'M6. À cette occasion, Émilie Dekens sera en ligne avec nous. Vous l'avez compris, on démarre l'année très fort. Alors c'est parti tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné de l'année.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Nous voilà vite remis en selle en ce début d'année. Guillaume Renusson est avec nous, réalisateur du film Les Survivants, qui est notre premier coup de cœur ciné de cette année 2023. Bonjour Guillaume et merci d'être avec nous.
Merci à vous, merci pour l'invitation, merci beaucoup.
Et puis on va démarrer l'année ensemble, effectivement, Guillaume, puisqu'on va parler non seulement des survivants, mais aussi de 36-15 Monique, puisque la saison 2, eh bien justement, vient d'être mise en ligne il y a quelques semaines sur OCS, à la demande notamment, où vous pouvez aller déguster carrément, eh bien non seulement la saison 1, mais la saison 2 aussi, qui vient tout juste de sortir, avec Noémie Schmitt, Arthur Mazet, toute la belle équipe qu'on retrouve avec grand, grand plaisir pour cette série tournée en Charente. On va commencer, première partie évidemment, pour les survivants. C'est ta première réalisation, Guillaume, au cinéma, un film qui raconte l'histoire de Samuel, un homme, on va dire, un peu paumé dans sa vie à un moment donné, et qui va aller se réfugier dans les hauteurs, dans les Alpes, et qui va se retrouver face à face avec une réfugiée afghane, pas très bien en point, qui a fui aussi, avec une première scène très très forte, très choc pour le coup, et puis il va être tiraillé, évidemment, pendant tout le long du film, entre l'aider, s'attirer des ennuis, et évidemment ne pas pouvoir laisser cette femme comme ça, et c'est ça que raconte un peu le film. C'est cette ambivalence permanente finalement.
Exactement, et puis j'apprécie d'ailleurs que vous disiez que Samuel se réfugie dans son chalet côté italien et tombe sur une réfugiée. Ces deux personnages en quelque sorte qui ont fui quelque chose, et c'est la rencontre voilà d'un homme qui est dans une sorte de rédemption et qui fait la rencontre comme ça presque comme une forme de lonesome cowboy qui fait la rencontre d'une femme qui elle est voilà en fuite, qui a traversé plusieurs continents, qui est exilée, et c'est surtout un film qui traite frontalement, radicalement de la situation à la frontière franco-italienne, frontière à laquelle je me suis rendu plusieurs fois, où je fais des maraudes, où je suis allé rencontrer des gens. Moi j'ai pu observer de très près trois ambiances là-bas sur place, une sorte de parfum de solidarité. Parce que c'est vrai que pour des montagnards, c'est un peu comme des marins. Ils vont vous dire qu'à aucun moment, on peut laisser quelqu'un à la mer, comme ça, en train de se noyer. Un montagnard, pareil. Quelqu'un dans la poudreuse, dans le froid, en jean, en basket, on est obligé de l'aider. Il y a aussi une sorte d'indifférence. Et dans le même temps, moi, j'étais confronté à une forme de xénophobie là-bas. J'ai vu ce qui se passait. J'ai vu une sorte de banalisation du racisme, de la haine, du rejet de l'autre. Et c'est un peu en fait ces trois ambiances qui déjà en fait m'ont mené à écrire le film de cette façon avec Clément Penny, mon co-scénariste, et en fait à aller directement vers un film qui mute en fait en quelque sorte. C'est un film qui démarre comme un drame social, une sorte de chronique à la frontière, qui parle de la situation comme un film politique, social, et en même temps un moment qui va vers ce qui se passe dans le film, à savoir deux personnages qui doivent passer par plus haut, deux personnages qui sont traqués parce que trois jeunes dans la vallée sont contre le passage de réfugiés et qui se retrouvent à devoir passer par plus haut, qui se retrouvent à devoir se faire confiance aussi, deux personnages qui se méfient l'un de l'autre et qui à un moment en fait vont se reconnaître dans leur douleur, qui vont se reconnaître dans leur drame, qui vont d'ailleurs conserver de l'autre que la douleur. C'est un film sur un geste solidaire, un geste nécessaire, et un film qui aussi interroge quand le dialogue devient impossible entre des citoyens. Qu'est-ce qui se passe à 3000 mètres d'altitude quand il n'y a plus de loi, ou en tout cas quand tout le monde se l'accapare et en fait chacun ce qu'il veut, et où la seule solution devient la violence comme seule issue pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir survivre justement. Le film s'appelle Les Survivants, il n'est pas que programmatique, on parle aussi de deux survivants au début du film, pour le coup, Denis et Zahar. Donc Samuel, Denis Ménochet, Zahar Amir Ebrahimi qui joue Chéré. Zahar Amir Ebrahimi qui a eu au dernier festival de Cannes le prix d'interprétation féminine pour Les Nuits de Machad, rappelons-le. Donc deux comédiens avec qui j'ai eu l'honneur, la chance de travailler. Donc voilà, c'est un peu tout ça, Les Survivants.
Les Survivants, c'est une sacrée histoire, j'imagine, pour un premier réalisateur, parce que quand on fait un premier film comme ça, au cinéma, et qu'en plus, tu t'attaques à des conditions de tournage extrêmes, la montagne, l'altitude, la neige, le froid, toute la technique à embarquer avec toi, toute une équipe de tournage, c'est vraiment pas si simple qu'on pourrait le penser.
Ouais, et pas si simple du tout. C'est en fait un film où je l'ai découvert très vite, en fait, très très rapidement, que la logistique allait toujours impacter l'artistique. C'est pas le genre de film où on fait ce que l'on veut. En fait, à un moment, la neige, le froid, les conditions météorologiques décident des scènes. Donc il y a une souplesse à avoir. Et au-delà des conditions, nous, on a surtout vécu la pandémie de plein fouet, parce que c'est un film dont on a commencé le tournage en mars 2020. On a tourné une semaine et le film a été arrêté 10 mois, parce que comme vous l'avez dit, c'est un film sur la neige aussi, la montagne. Et donc j'ai dû attendre qu'il reneige et je n'ai pu reprendre que 10 mois après. Je crois qu'on a été le tournage arrêté par la pandémie qui a été le dernier à reprendre. Et ça, pour le coup, en fait, ça a scellé quelque chose de très fort. Et donc je pense que les conditions dans lesquelles on a fait le film, ce que l'on a vécu, la patience, la résilience collective avec lesquelles on a dû conjuguer, ça a vraiment créé quelque chose de très fort.
C'est très cinématographique. À certains moments, il y a peu de dialogue. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'images, justement des images fortes qui passent dans les regards, qui vont passer aussi dans les attitudes des comédiens, et avec des fois peu de paroles entre justement ces deux héros qui essayent voilà de s'allier ensemble pour se sauver mutuellement en quelque sorte. C'est voulu, ça, justement, d'avoir des moments de silence régulier, d'être plus dans l'action.
Il y avait le fait de faire un film de marche et de se poser la question d'ailleurs comment on suit des gens qui marchent. Même parfois on se rendait compte que je sais que dans l'écriture il y avait parfois quelques dialogues dans la marche, mais en fait quand vous vous retrouvez à en fait marcher dans de la poudreuse et devoir avancer, c'est pas le meilleur moment pour avoir des discussions. Et ça, en fait, ça fait partie, d'ailleurs ça c'est venu nourrir quelque chose que je désirais en mise en scène, c'était créer de la tension, d'avoir deux personnages qui ne se connaissent pas, qui s'ignorent, qui se méfient l'un de l'autre. Elle est condamnée à lui faire confiance, lui il est là à l'aider un peu malgré lui pour des raisons intimes, elle le renvoie à des souvenirs, à un être aimé, enfin voilà, donc le spectateur découvrira pourquoi, mais tout de suite, ça crée une forme de tension, et c'était en fait aussi créer un duo, et que à un moment, chacun se dévoile et chacun vient se raconter à l'autre. Et je pense que en faisant ça, il y avait aussi comme idée d'aller chercher un compositeur pour pouvoir porter ces scènes. C'est vrai que quand on écrit 8 pages, 10 pages de texte sans dialogue, ça donne 10 minutes de film sans dialogue avec des gens qui marchent. Et là, j'ai pu travailler avec un compositeur formidable qui est Rob, qui est le compositeur du Bureau des Légendes, de Rebecca Zlotowski, un compositeur avec qui j'avais envie de travailler et qui est venu en fait créer via sa musique l'âme du film. Et un film de tension, vraiment, c'est un moment en fait aussi voir ces deux petits points marcher dans la neige, dans la poudreuse, en altitude. Ça venait en fait aussi raconter l'absurdité sans rentrer dans un débat politique, mais quand on voit en fait deux personnes au milieu de nulle part d'une immensité sauvage et de se dire bah là il y a une frontière alors que on ne voit que des montagnes et de la neige et voilà à perte de vue, il y avait quelque chose d'absurde dans ces grands plans larges à les voir marcher là-dedans, et c'est ça qu'on voulait raconter aussi.
Les survivants, c'est mercredi au cinéma pour ce 4 janvier. Guillaume, on va revenir pour parler juste après de 36-15 Monique. Là, on est beaucoup plus dans la légèreté et dans la comédie. Mais en attendant, voilà, vous pouvez découvrir le premier film de Guillaume Renusson au cinéma. Mercredi, ça s'appelle Les survivants. On écoute et on revient juste après avec toi, Guillaume.
Il y a un problème ?
Je retourne au chalet.
C'est pas une bonne idée qu'il y ait tout ça, non ?
J'en ai besoin.
Monsieur dame, contrôle d'identité.
Et vous allez où comme ça ?
En Italie.
En même temps, on est chez nous ici.
Hein. Mon père m'a dit de dire que je dispiace pour toi, mon lieu.
Andrà bene, grazie.
Voilà, les survivants, allez voir au cinéma en ce début d'année. Guillaume Renusson est notre invité et également eh bien, à réaliser la saison 2 de 36-15 Monique, une série qu'on aime beaucoup. En tout cas, on a eu la chance de recevoir toute une partie de l'équipe pour la saison 1 et la saison 2, évidemment, continue. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu 36-15 Monique ou qui n'en auraient jamais entendu parler, Guillaume, comment toi tu présenterais la série ?
36-15 Monique, c'est l'histoire de Simon, Stéphanie, Tony, trois jeunes étudiants, et c'est ce que racontait la saison 1, trois jeunes étudiants qui, dans les années 80, avec l'arrivée du Minitel, ont l'idée en fait de développer une messagerie érotique, une sorte de rencontre comme ça, érotique, qui en fait s'est retrouvée appelée le Minitel Rose. Dans la saison 1, l'avènement du Minitel, l'arrivée du Minitel, l'idée du Minitel Rose qu'ils ont tous les trois. Et la saison 2, c'est leur entreprise, leur projet Minitel Rose, 36-15 Monique, très intégré en fait dans la société et qui va se retrouver justement confronté aux mœurs de l'époque, à des thèmes différents. Enfin voilà, c'est vraiment l'objet Minitel dans la société en tant qu'outil utilisé par beaucoup de gens. Et voilà, c'est une comédie assez incroyable. En tant que spectateur, j'avais adoré la saison 1, et c'est vrai que quand j'ai terminé Les Survivants, je venais de terminer le film, et l'un des producteurs en fait avec qui j'avais déjà travaillé sur l'un de mes courts-métrages m'a proposé de travailler sur la saison 2, de réaliser la saison 2. J'ai regardé la saison 1 et il y avait quelque chose, je trouve ça très intéressant en fait, à quel point ça raconte le monde dans lequel on vit. Le monde digital dans lequel on vit, le fait de se rencontrer comme ça en ligne déjà à l'époque, c'est les prémices de tous les désirs contemporains que l'on a relatifs à, voilà, au sexe, à l'érotisme, etc., aux relations hommes-femmes, et ça vient raconter beaucoup de choses de notre monde. C'est assez intéressant quand on se retrouve plongé dedans, et je crois que c'est surtout excessivement drôle, et c'était incroyable à faire. Trois comédiens incroyables que sont Arthur Mazet, Noémie Schmitt et Paul Scarfoglio, et de très belles rencontres. Et voilà, après avoir traité ce film, après avoir porté les survivants pendant plusieurs années, qu'on m'ait proposé voilà d'aller vers ce registre-là, ce grand écart absolu, j'ai trouvé ça, en fait je me suis posé la question, et très vite je me suis dit mais c'est une liberté folle que de pouvoir faire les deux. Et donc voilà, je suis allé dans cette aventure, et c'était incroyable à faire.
Alors, si on arrive vers le final de cette saison 2 sur OCS, vous avez déjà la possibilité, en tout cas, de découvrir toute la saison en intégralité, ainsi que la première sur OCS à la demande. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour pour découvrir cette série. Au casting, Arthur Mazet, Noémie Schmitt, on le disait, mais plein de jeunes acteurs formidables, en tout cas. On rit beaucoup aussi dans cette série. OCS fait souvent des trilogies dans ses séries avec des histoires développées sur au moins 3 saisons. Est-ce qu'on peut espérer, en tout cas, pour 36-15 Monique, que ça soit le cas et qu'une troisième saison voit le jour, en tout cas dans les mois à venir?
Moi, en tant que spectateur et réalisateur de la saison 2, je l'espère, ne serait-ce que pour la série, au sens où je sais qu'elle a été pensée, conçue, imaginée dans son développement, dans la proposition même de la saison 1, d'être sur 3 saisons. Après, voilà, j'espère que ça se fera, et là, la décision ne m'appartient pas du tout. J'attends de voir ce qu'il en est, et vous en serez tenu au courant, bien entendu, dès qu'on le saura.
Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous, d'avoir démarré cette année 2023 en notre compagnie. Les survivants, c'est donc au cinéma, 36-15 Monique, le jeudi sur OCS, pour le final très prochainement, et puis en intégralité sur OCS à la demande. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup, merci à vous.
La France entière va enfin rencontrer 36-15 Monique.
Attention, on est imbattable. Le génie technologique.
En termes de probabilité, on est déjà à 112% de chance que Noah gagne.
la visionnaire,
je vous invite à entrer dans le futur.
Et moi, l'art du cul.
Et on enchaîne avec...
les jacques spatiales.
On est juste en train de se diversifier. Encore, et encore, et encore.
D'ici la fin de l'année, le Minitel Rose, c'est terminé. Je vous le garantis, monsieur le ministre.
Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Bonne année 2023.
Suite, on écoute la télé, le Talk Show Radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, cette semaine sur France 2 débarque une série magnifique qu'on a pu découvrir au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle il y a maintenant quelques semaines. Ça s'appelle Vortex. Vous allez pouvoir découvrir ça sur France 2 avec Camille Clarisse, Thomas Sisley. Et Camille est avec nous justement aujourd'hui. Bonjour Camille.
Bonjour.
Quel bonheur de te retrouver après La Dernière Vie de Simon. On te retrouve dans une série avec un rôle, mais ça te va tellement bien. Camille, on va plonger dans une histoire déjà d'amour assez dingue. Et puis avec du paranormal, du fantastique. Et c'est vraiment chouette comme série. C'est ce qui t'a séduit en premier, toi ?
Oui. Je suis vraiment moi une spectatrice de la science-fiction. J'adore voir ça au cinéma. Et en fait, quand j'ai découvert les scénarios et que j'ai su que ça allait être pour la télé, je me suis aussi dit waouh, c'est un beau défi. Et en plus, dans l'écriture, j'ai trouvé que c'était profond. Que voilà, en toile de fond, on parle beaucoup du deuil aussi et de la difficulté à accepter la mort d'un proche. Et en fait, voilà, c'est des enjeux la science-fiction qui sont immenses pour les personnages. Forcément, puisqu'il y a cette notion d'irrésolvable, situation impossible à résoudre. Donc c'est génial, c'est du pain béni pour l'acteur, quoi.
On est plongé en 1998 et en 2025. En 1998, on te retrouve en couple avec le personnage de Ludovic joué par Thomas Sisley. Tu fais une chute du haut d'une falaise, tu te tues. Et en 2025, donc le personnage de Ludovic, 27 ans plus tard, a refait sa vie. Et là, à travers, on va dire, une exploration scientifique, en rentrant dans une salle et en enquêtant sur un meurtre où a eu lieu ta chute d'ailleurs sur la même plage, il va se retrouver face à toi avec un bond dans le temps de manière inopinée. Et là, c'est là que toute la magie opère, puisqu'il va se retrouver plongé dans ses souvenirs et en même temps va tenter de changer le futur. Et là, ça c'est, franchement, c'est une série qui fait tous rêver. Qui n'a pas rêvé de changer le futur ?
Et oui, c'est vrai que quel pouvoir, quoi. Incroyable. Et en même temps, changer le futur, ça a de lourdes conséquences avec l'effet papillon. Et on s'en rend compte assez vite dans la série. À chaque fois qu'un petit détail change en 98, ça peut avoir de très grosses conséquences pour 2025. Et donc, ça donne lieu à des moments de scénario et de cinéma qui peuvent être forts, quoi.
Ah, moi j'ai bien aimé la scène par exemple où il découvre la photo et puis qu'il y a ton visage qui s'efface de la photo parce qu'il a changé quelque chose et il se dit ah oui j'ai changé quelque chose. Alors, on se dit toujours effectivement est-ce qu'on aurait fait tout pareil ? On s'est tous posé la question à un moment donné d'avoir fait quelque chose et qu'on se dit putain si j'avais su j'aurais fait autrement. C'est vrai. Qui n'a pas rêvé de ça un jour de pouvoir changer ?
Absolument. Si, ce fameux si qu'on peut mettre au début des phrases, si j'avais, si on était, et en même temps, avec des si, on serait pas qui on est dans le présent, et c'est pas rien d'abandonner qui on est dans le présent pour des choses passées qu'on modifie, quoi.
Ta rencontre avec Thomas ?
Super. Super, c'est un comédien extrêmement généreux. Il est fou de travail. C'était génial parce que on avait une vraie confiance l'un dans l'autre. On a beaucoup beaucoup parlé des personnages de la série ensemble et notre complicité est née très vite. Donc c'était une vraie chance.
Comment tu la définirais toi, Mélanie ?
Comme un personnage très hyperactif. Vive au début de la série, au tout début, dans la première séquence, on comprend que c'est une juge d'instruction en pleine montée dans sa carrière, mère d'une petite fille, amoureuse, tout va bien. Et puis en fait, très vite, elle apprend qu'elle a 10 jours pour changer l'avenir parce qu'elle est condamnée. Et en fait, le personnage est bouleversé, tout ce qu'elle est s'écroule. C'est ça qui m'a plu d'ailleurs dans le personnage, c'est sa capacité de transformation. Elle s'adapte à des situations terribles.
Alors, c'est tellement remonté, moi, quand j'ai vu la série. Évidemment, j'ai pensé à La Dernière Vie de Simon, où tu incarnes un rôle assez incroyable. Est-ce que toi, quand t'as lu le scénario, tu t'es dit, ah, tiens,
Bah oui, j'y ai pensé. Je me suis dit, quelle chance, quoi, de pouvoir lire des scénarios pareils, qui racontent des histoires qui sont si grandes, si universelles, et tout en étant...
moderne, oui, aussi.
Oui, et complètement dingue, quoi.
Ta scène, qui était pour toi la... Oh, peut-être pas la plus difficile, mais ça peut être la plus drôle. Hein.
Mm-hmm. Bon, y a une course-poursuite en voiture, et c'est moi qui conduisais. Et ça, je dois avouer que ça a été quelque chose, quoi. Parce que c'est aussi une série où il y a de très longues scènes de dialogue. Notamment, il y en a une qui durait 7 minutes. Donc en fait, au cinéma, c'est très très rare de se retrouver à faire des scènes de bout en bout qui durent 7 minutes. Et donc, ces scènes de course-poursuite de voiture, elles sont arrivées à un moment où le personnage est extrêmement dans l'action. C'est-à-dire qu'elle arrête de réfléchir, elle arrête de dialoguer, elle agit vraiment. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré les cascades. De toute façon, bah, si je pouvais faire à chaque fois des cascades, je le ferais, quoi. C'était trop bien.
Alors, on découvrira si effectivement elle sera sauvée ou pas. C'est ce qu'on découvrira. À quel point ça bouleversera aussi ce futur dans cette série. Mais moi, il y a une question qui me brûle les lèvres quand même, parce que j'ai vu que les deux premiers épisodes pour le moment. Est-ce que la fin est ouverte? Est-ce qu'on peut imaginer une suite ou c'est vraiment bouclé?
Ah oui, c'est bouclé, mais on peut imaginer plein de choses. On a, enfin en tout cas, moi c'est sûr, j'ai envie de plein de choses.
On aura toutes les réponses aux questions, en tout cas, mais la fin est semi-ouverte.
Ouais, je pense qu'elle peut.
La possibilité que les auteurs soient inspirés pour pouvoir faire une suite, en tout cas, et toi t'es partante.
Absolument, et puis ils le sont. Ils ont des idées, on en a parlé. Après, comme d'habitude, c'est toujours... On ne sait jamais avec les séries si on va partir sur une saison 2 ou pas. C'est toujours difficile à prévoir, quoi. Mais en tout cas, nous, on est tous pour, quoi.
Tous au taquet.
Ouais.
Bon, moi, je vous espère tellement de succès. En tout cas, cette série vaut vraiment le détour. Ça s'appelle Vortex. Vous allez pouvoir la découvrir dès cette semaine sur France 2. Et vraiment, ne la ratez pas. Camille, Clarisse, Thomas Sisley, il y a tellement de monde autour. Donc, allez voir cette série à mi-chemin entre vraiment le romantisme, un peu de thriller, d'action. Il y a du suspense, il y a de la science-fiction. Vous allez voir, vous allez être épaté. Franchement, merci beaucoup, Camille.
Non, merci à toi. Merci beaucoup.
Zoé, Isabelle, Lévy, 45 ans.
Et à quoi, Ludo?
Sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme.
Tu déconnes?
Zone B. Je suis retourné dans la salle VR pour Zoé et Lévy. J'ai vu Mélanie. Vivante. On est en 2025.
98. Je vais vraiment mourir, là?
On peut peut-être empêcher ça.
Démarrer 2023 sur Attitude.
Coup de cœur télé, c'est un des premiers de cette année 2023, année zéro, qu'on va découvrir demain sur M6. Une fiction exceptionnelle que moi je vous conseille vraiment de suivre avec Émilie Decken qui est justement avec nous. Bonjour Émilie.
Bonjour, comment ça va?
Eh ben ça va très très bien, bonne année 2023 Émilie, je suis très heureux de vous avoir.
Eh bien, aussi une très bonne année et je suis très heureuse d'être là et ravie que cette série vous ait plu.
Ah oui, moi je suis complètement fan des voyages dans le temps. Je dois avouer que voilà, on est gâtés hein, entre Vortex qui est lancé ce soir sur France 2 et Année Zéro demain sur M6. Là, c'est une jolie aventure. Alors, pour situer un peu l'histoire d'Année Zéro, il y a un basculement dans le temps. On est un peu dans l'anticipation puisqu'on est le 31 décembre 2023 où un meurtre, on imagine, a eu lieu sur la personnalité de Marc, un chirurgien. Bien renommé d'un hôpital, et au moment où que vous jouez une enquêtrice et vous avez perdu votre mari, en tout cas dans ce début de fiction, vous allez vous retrouver avec les personnages de Marc Rizzo et Claire Keim dans un ascenseur tous les trois, et en sortant de l'ascenseur vous êtes rebasculé un an avant, c'est-à-dire le 1er janvier 2023. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce genre de situation? Si on avait, nous, le pouvoir de voyager dans le temps, de refaire le passé, de changer le présent, on ne sait pas trop finalement, mais c'est un fantasme incroyable ça.
Ah, c'est génial de se dire qu'on est au courant de ce qui va possiblement se passer pendant toute l'année et de se dire qu'on a les cartes en main pour essayer de modifier les choses. Et puis là, ce qui est dingue en ce qui concerne ces personnages, c'est que c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et personnellement, et tous ensemble. C'est-à-dire pour éviter cet assassinat commis dans l'hôpital. Et puis surtout, ils ont une façon de s'approprier le secret très particulière. Parce que moi, je vous avoue que s'il m'arrivait un truc pareil, j'en parlerais à tout le monde. J'essaierai de trouver quelqu'un qui me croit, quelqu'un qui me comprenne.
Mais oui.
Et eux, non. Eux, ils vont garder ça pour eux parce qu'ils sont les seuls à être conscients de ce voyage dans le temps. et ils vont tout faire pour changer les choses.
Alors, vous jouez le rôle de cette enquêtrice qui a perdu son mari d'une attaque cardiaque, qui cachait des choses, qu'on va découvrir, hein, on va pas tout dire, mais qui cachait des choses, effectivement, à sa femme. Et évidemment, quand vous êtes au courant un petit peu de tout, vous allez essayer d'empêcher les choses, mais est-ce que ça n'a pas des répercussions, effectivement, après, sur le futur, sur le présent? C'est ça qu'on va voir. Comment on pourrait la définir, cette enquêtrice, justement, Émilie?
Alors, elle s'appelle Juliette, elle est extrêmement obstinée, têtue, elle a un sacré caractère, on peut le dire, elle a pas sa langue dans sa poche, et puis parmi ses personnages, elle est celle qui va percuter tout de suite qu'elle peut en faire quelque chose, qu'elle peut changer, elle le dit elle-même, hein, je vais reprendre ses mots, c'est vraiment, elle a vécu une année de merde, on peut le dire, parce qu'elle a éperdu son mari, mais elle a découvert en plus de ça qu'il avait des dettes, enfin, sa vie va vraiment basculer pendant l'année 2023, et donc très très vite, dès qu'elle se rend compte qu'ils sont revenus un an en arrière, elle va tout de suite faire tout ce qu'elle peut pour changer cette année qui a été une catastrophe pour elle. Bah, c'est un scénario assez inédit, j'avoue que des histoires comme ça, j'en lis pas tous les jours, et oui, je trouvais que c'était un personnage extrêmement réel. En fait, tout ce qu'ils vivent, c'est extrêmement réel. C'est le point de départ qui est de la science-fiction. C'est le point de départ qui est ce voyage dans le temps.
Tout à fait.
Et en fait, j'aime beaucoup quand des choses extraordinaires se passent dans la vie tous les jours, quoi. Il y a un truc comme ça où finalement, on se dirait, tiens, ici, c'était possible. Ah, mais il y a plein d'histoires dans l'histoire, en fait. Chaque personnage, déjà, a son histoire personnelle. Et au-dessus de ça, il y a une intrigue plus générale. Mais oui, il y a 4 films, 5 films dans le film, en fait.
Émilie, moi j'ai pas vu les 2 derniers, hein. J'ai vu que les 2 premiers, donc j'ai pas vu la fin, je voulais pas voir la fin avant que de vous avoir au téléphone, mais est-ce que la fin est bouclée ou est-ce que elle peut imaginer déboucher peut-être sur une suite ou sur une saison 2? Juste nous dire ça.
Alors, sans trop en dévoiler, j'avoue qu'il y a un petit twist final, voilà, qui pourrait être une fin, et puis tant pis pour nous. Ou qui pourrait donner très très envie aux spectateurs d'en savoir plus.
Alors il y a vraiment un casting incroyable, hein, Eric Caravaca qui est un peu l'histoire de départ du coup, mais aussi Marc Rizzo, Marc Rushman, Claire Kame. Vous êtes super bien entouré, quoi.
Ah oui, franchement, je me suis beaucoup amusée. Il y a Lou Denis Lyon, il y a Fouad Amara. Enfin voilà, il y a vraiment une belle clique d'acteurs avec qui c'est beaucoup amusé. J'avoue que le plateau n'était pas très très calme. L'équipe a eu parfois un peu mal à la tête en fin de journée. Quand on était tous réunis, c'était assez festif, j'avoue.
Bah c'est qu'il y a de la bonne humeur et ça c'est bien.
Bah on en avait besoin parce que mine de rien, c'est quand même assez sombre ces histoires d'enquête et tout ça. Il s'agit de leur vie, quoi. Donc je pense que nous acteurs à côté de ça, on avait besoin de se divertir un peu et on s'en est donné à cœur joie.
Quand on tourne des scènes comme ça où on doit effectivement rentrer un peu dans le fantastique, qu'est-ce qui nous passe par la tête pour pouvoir rentrer dans le personnage?
À partir du moment où on a accepté que le point de départ c'était comme ça, que voilà, on allait se retrouver un an en arrière avec toutes les cartes en main, on n'y réfléchit pas trop, quoi. C'est un fait, c'est un truc qu'on accepte. Voilà, la seule chose qui demande un peu de travail, on a soulevé pas mal de loups pendant qu'on tournait. C'est une construction qui est difficile en termes de continuité et parfois on s'y perd un peu entre ce qui s'est passé l'année précédente et l'espèce de double réalité. Donc ouais. Parfois, il pouvait y avoir des incohérences. Parfois, on se disait, ah, mais non, tiens, elle peut pas dire ça parce que ça, en fait, elle ne le sait pas encore. Alors, elle le sait, mais les autres ne doivent pas savoir qu'elle le sait. Donc voilà, on avait sans cesse énormément de...
Des petits raccords, peut-être à faire.
Bah oui. Ouais. Exactement, ouais.
Et ben en tout cas, visuellement, c'est très beau. Moi, je vous conseille Année Zéro. Ça débarque demain sur M6 avec les 2 premiers épisodes. Émilie, on va terminer par vos projets pour 2023. Cinéma, théâtre, télévision. Qu'est-ce qui vous attend?
Oh là là. Alors, c'est long parce que j'ai tourné énormément de films entre le début et la fin de l'année. J'ai même des films que j'ai tournés en 2021 qui ne sont pas encore sortis. Donc, vous allez me voir beaucoup, beaucoup au cinéma. La
mais
télévision, c'est ce sera Année Zéro que vous allez voir demain. Mais voilà, surveillez parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, dont l'adaptation du livre de Gilles Le Gardinier complètement cramé, qu'il a réalisé lui-même avec John Malkovich et Fanny Ardant. Un biopic sur Marinette Pichon.
Oui, réalisé par notre amie Virginie Verrier d'ailleurs, que j'embrasse, voilà. Qui nous écoute souvent.
Voilà, ben Virginie a fait ce film incroyable qui est incarné par Garance Marillier. Je pense que ça va être absolument génial. Et encore plein de choses. je crois que je tiendrai l'antenne trop longtemps si je vous disais tout ce que j'ai fait, mais ça va être chouette et je me suis beaucoup amusée.
Eh ben, je sens qu'on va se revoir plusieurs fois cette année au téléphone, alors.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, en tout cas, Émilie, d'avoir été avec nous. On retrouve donc Année Zéro dès demain à 21h10 sur M6, les deux premiers épisodes, et on va se quitter avec un petit extrait. Merci beaucoup, à bientôt, Émilie.
Merci beaucoup.
Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi maintenant? Pourquoi?
C'est incompréhensible. J'ai essayé de faire des recherches, j'y comprends rien. C'est... sur les boucles temporelles.
Arrête, c'est la science-fiction, tout ça, ça n'existe pas. Enfin, c'est... Mais pourquoi on est les seuls? Les seuls!
Et notre coup de cœur télé consacré à la série Le Code qui fait son grand retour mercredi sur France 2 pour une deuxième saison inédite avec Daniel Njolobé qui est avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour Alain.
Et c'est reparti pour une deuxième saison avec ce costume d'Idriss Thomas qui vous va à merveille, qu'on a eu l'occasion de découvrir l'année dernière. C'est toujours un bonheur quand on voit une série renouvelée comme ça pour une deuxième saison et avec le succès en plus qu'elle a connu sur la première.
Oui, et puis c'est fantastique de retrouver des partenaires de jeu avec des personnages qui évoluent. Enfin, je vais pas spoiler, parce qu'il y a vraiment des belles évolutions de pour chacun d'entre nous. Et cette histoire qui avance, cet avocat qui est pris au piège avec un état de santé qui se dégrade, et donc les histoires qui s'accélèrent.
Eh oui, on a quitté cette fin de saison 1 en plus avec cette révélation sur l'état de santé, sur la condamnation de cet homme qui sait qu'il lui reste plus qu'un an à vivre, a priori cette espérance de vie. Et maintenant tout le monde est au courant, c'est une libération pour le personnage en même temps.
Oui, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Plus simple parce que du coup, il a plus le poids du secret, du mensonge qu'il maintenait avec un peu tout le monde, sauf avec le personnage joué par Catherine Deneuve, Elodie. Et plus compliqué parce que il a envie de tout régler au cas où les choses se passeraient très 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 mal. Ça donne vraiment une tension à cette nouvelle saison et c'est vraiment très bien.
Alors, dans le premier épisode qu'on va voir mercredi, il y a Francis Perrin, notamment guest, il y a Grégoire Bonnet, et puis tout au long de la saison, Émilie Gawakan, Claire Borotra, Armel Dutch, Moïse Santamaria, Cyril Lecomte. C'est incroyable la liste des comédiens prestigieux qui viennent vous rendre visite sur cette deuxième saison. Hein.
Oui, c'est des guests de prestige. C'est très agréable parce que moi j'avais déjà tourné avec un certain nombre d'entre eux dans d'autres séries ou d'autres films, et c'est toujours un plaisir de retrouver des grands acteurs, des gens avec un talent fou. Ça nous amène aussi à un autre niveau, je pense, pour la série.
Alors en plus, c'est mis en scène brillamment par une figure bien connue des téléspectateurs et qui maintenant passe beaucoup derrière la caméra avec un talent assez incroyable. C'est Bénédicte Delmas qui met en boîte cette deuxième saison. Hein.
Mais qui nous a dirigé de main de maître en plus. Elle est, je pense que le fait qu'elle ait aussi une approche d'avoir été comédienne lui permet d'avoir un rapport avec les acteurs qui est très 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 particulier, presque intime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi justement à équilibrer ce rapport entre le travail des avocats et leur histoire personnelle. Et ça, c'est vraiment, vous verrez dans la deuxième saison, elle a amené sa patte dessus. Elle a aussi été très forte sur ce qu'on appelle des plans séquences qui donnent beaucoup de rythme aux scènes qu'il y a dans le cabinet d'avocat. Et c'est vraiment, moi j'ai hâte que le public découvre cette deuxième saison.
Et bien nous aussi, on a hâte de la découvrir. On y retrouve toujours autour, évidemment, d'Idriss Thomas, toute l'équipe qui a fait le succès de la première saison. Christiane Millet, Nedra Ayadi, Barbara Probst, qui était notre invitée l'année dernière d'ailleurs, pour démarrer cette belle aventure dans notre émission. Théo Frillet, Wendy Nieto, il y a du beau monde, évidemment. Et tout le monde a rempli pour cette deuxième saison. Hein.
Oui, oui, oui. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que... cette deuxième saison, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus choral. C'est-à-dire que chacun a vraiment des histoires qui se développent, on les suit, on les aime de plus en plus. Il y a beaucoup d'humour aussi. Et c'est vrai que, il y a une petite famille qui s'est créée avec ce groupe de comédiens que l'on forme sur la série. Et c'est vraiment très, très, très agréable de les retrouver. Hein.
Alors, ce premier épisode va tourner, qu'on va voir mercredi, autour de la maladie d'Alzheimer, un sujet très d'actualité, avec ce couple qu'on retrouve dans un lit dont l'une est retrouvée morte. On va voir, évidemment, alors est-ce que c'est un féminicide, est-ce que c'est un acte d'amour, effectivement, puisque la femme qui est retrouvée était atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Et ça pose aussi, évidemment, plein de débats, plein de réflexions, cet épisode.
Et je trouve que parfois l'actualité, où on a été rattrapé par l'actualité, et cette série amène ça. C'est intéressant de voir comment finalement la justice, le système judiciaire français va finalement s'emparer de nos problématiques sociétales. et comment justement on peut se rendre compte que ce sont des hommes et des femmes qui, avec leur sensibilité, qui doivent traiter ces sujets, et notamment le personnage de Nedra Ayadi et celui de la présidente de cet épisode. Ce qui est intéressant, c'est l'antagonisme, parce que selon notre vécu, on n'aborde pas ces questions-là de la même façon.
Oui, et on n'a pas la même perception forcément aussi.
On n'a pas la même perception. Mmh. Et c'est même dans l'histoire avec le père, avec Francis Perrin et l'acteur qui joue son fils. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est simplement qu'on traite de l'humain et la justice essaye de gérer ça au mieux.
Ouais, c'est ça qui est très très intéressant dans cet épisode. Vous allez voir que voilà, ça amène le débat. Dernière question, Daniel. Moi, je me pose une question, vu que le personnage est quand même, on va dire, sous couperet en quelque sorte. Comment on peut imaginer et se projeter dans de saisons futures, du coup, avec ce rôle d'Idriss Thomas?
Mais moi, c'est ce que j'aime justement, c'est que potentiellement, c'est peut-être la dernière fois que je l'ai joué, donc ça, c'est très intéressant. Et après, c'est aussi la réalité de la télé, c'est-à-dire que est-ce qu'il va y avoir une troisième saison? On n'en sait encore pas grand-chose pour l'instant. Mais ce qui est bien, c'est de jouer un personnage qui n'a pas le temps, qui n'a pas une minute à jouer, ce qui donne des choses beaucoup plus intenses que si le personnage était installé ou dans une espèce de routine. Donc pour moi c'est un très bon challenge. C'est agréable en fait de jouer comme si c'était potentiellement la dernière scène à chaque fois.
Eh ben, on va déguster cette deuxième saison. Le Code revient mercredi sur France 2 à 21h10, juste après Un si grand soleil avec Daniel Angelobé et tout plein de chouettes comédiens autour, et Francis Perrin notamment guest dans cette soirée. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous.
Merci Alain, à bientôt.
Et on va se quitter avec la bande-annonce, c'est parti.
Quand on m'a tiré dessus, ils m'ont tiré 3 balles, mais il reste un éclat. Ce petit morceau va me tuer.
Je veux pas que tu meurs, papa.
Triste.
T'es obligé de leur dire.
Tu mets ta vie en danger. Il faut que t'arrêtes tout de suite.
Dès que ce procès sera terminé.
Non, Idriss, maintenant.
Je suis pas encore mort.
Bon, allons-y les enfants.
On va attendre Nadia.
Elle est sur une garde à vue.
Claire, sans prête pour ta grande première en solo.
Je sais pas si je vais y arriver.
Tu vas gagner.
Je serai dans la salle pour te féliciter.
Dans un instant, notre spécial 16 ans, Philippe Lioré, Tello Azaïs et Sabrina Devoy nous rejoignent. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite.
Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Bonne année 2023.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Coup de cœur ciné aujourd'hui pour le film 16 ans de Philippe Lioré, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On recevra d'ailleurs les comédiens d'ici quelques instants avec Tello Azaïs et Sabrina Levoy. Ils sont incroyables. C'est un Roméo et Juliette des temps modernes, Philippe, que vous nous avez signé là. Le film est beau de bout en bout. C'est une histoire d'amour impossible qu'on va suivre dans ce film. Mais déjà, comment est venue l'idée du sujet?
Alors, de plusieurs directions possibles. La première, c'est peut-être que quand j'avais 16 ans, mon père m'a dit un jour, il y a peut-être d'autres gens à fréquenter que ceux de la Croix-Blanche, tu crois pas? Ça m'est un peu resté, ça. Et je lui dis, ben non, je crois pas. Voilà. Mais ça, c'est un truc qui est inoubliable.
Il reste ancré.
Ancré. Et puis, le temps passe. Oui, on réfléchit toujours, on cherche, on se dit, tiens, quel sujet peut me toucher, moi, et va peut-être toucher les autres aussi. Et Roméo et Juliette, je me disais, c'est drôle, cette pièce qui date du 16e siècle, qui a jamais été vraiment adaptée aujourd'hui. Pourquoi? Et puis je me dis, mais si, peut-être parce que, finalement, dans la pièce de Shakespeare, les Capulet et les Montaigu, bah, ils s'aiment pas, mais on sait pas pourquoi. Et c'est comme ça, c'est deux familles qui s'opposent. Et aujourd'hui, si on raconte la même histoire, on va raconter l'histoire avec deux familles qui, a priori, devraient s'entendre très bien, mais qui, par le poids de la prédestination sociale, par le poids des milieux, par le poids des religions, par le poids des... Voilà, quelque chose va coincer et les deux gamins, ils se retrouvent au milieu de tout ça. Je suis sûr qu'on peut faire un truc formidable avec ça, c'est ça le point de départ.
Ben, c'est clair. En tout cas, on va y suivre le parcours de Nora et Léo, qui ont 16 ans, qui sont pas du tout du même milieu, pour le coup, tous les deux, et qui tombent éperdument amoureux. Comment on pourrait dire ça? Ben, tout simplement qu'une bouteille de Château Margaux va mettre le feu aux poudres. C'est bien dit, hein?
Oui, oui, oui. Oui. Non, non, voilà, il y a un vol dans l'hypermarché du Bled où...
Qui est tenu par le père de Léo.
Voilà, il y a le vol d'une bouteille qui est une bouteille qui, que personne n'achète jamais. C'est une bouteille qu'on met en vitrine lors de la foire au vin pour attirer le chaland. Elle a disparu, le chef de rayon, évidemment, incrimine un manutentionnaire... aussi un peu par une forme de racisme, parce que voilà, c'est Tarek, et que Tarek, il a peut-être déjà piqué des trucs, enfin, on sait pas, enfin. Ce garçon se fait foutre à la porte parce qu'il parle mal à ses supérieurs, et se fait foutre à la porte par le directeur de l'hypermarché, qui se trouve être le père de Léo, et que ce manutentionnaire est le frère de Laura. Et ça met le feu aux poudres. Voilà.
Et c'est une bataille de deux familles qu'on va suivre, et ces deux jeunes qui vont tout faire pour essayer justement de surmonter tout ça. Alors on verra s'ils arriveront ou pas, on verra s'il y a un happy end ou pas, mais en tout cas c'est une histoire d'amour impossible qui se noue devant nous pendant une heure et demie, ça c'est une certitude.
Oui, oui, et derrière cette histoire d'amour, ça parle aussi des communautés, des déterminismes sociaux et tout ça. J'ai pas voulu faire un film à thèse, hein, mais je pense que ça résonne derrière l'histoire, tout ça.
Quelle a été pour vous la scène qui a été... Alors, soit la plus dure, soit la plus difficile à mettre en boîte.
Oh, elles ont toutes leurs difficultés, toutes leurs singularités, mais peut-être que la plus difficile à tourner a été la scène du RER. Parce qu'on a tourné dans la vraie vie, c'est-à-dire que sur un vrai quai, avec des vrais gens, avec un vrai RER qui arrivait. Le cinéma américain, là, c'est une scène qui coûte $1 million. Bah oui, parce qu'il faut un train spécial, un quai spécial, des figurants partout, l'intérieur, l'extérieur, les bus, la rue, les escaliers, la billetterie, le quai, le RER, l'intérieur du RER, enfin tout ça, la caméra qui suit les protagonistes comme ça, ça a l'air de rien. C'est un merdier épouvantable à mettre en place. On part du bus, la rue, le hall, les escaliers, le quai... Le RER qui arrive, qui monte dedans, les autres qui se battent sur le quai, qui repartent en courant, plus jusqu'à la fin, je dis pas ce qui se passait à la fin, mais ça, cette séquence-là, ouais. Je vous dis, dans un film américain, je dis $1 million, je pense même que c'est $2 million.
Et très intense en tout cas.
Et nous,
il faut aller vite, à mon avis, les caméramans derrière, faut pas traîner.
Et nous, on a 50 000 € pour faire tout ça, quoi. Donc... faut trouver les solutions. Ouais. Et c'est un casse-tête. Et là, je dis merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée. Notamment là à la production et à la régie, parce que organiser ça et les assistants et tout ça, c'est un bordel, mais vous pouvez pas imaginer. Et quand on appuie sur le bouton et qu'on dit moteur, on me dit train en gare dans 18 secondes, moteur, boum, et vas-y, le truc commence en bas. Et je sais que quand on va arriver en haut sur le quai, le train va arriver à telle porte, tout a été répété, revu. Si ça foire, terminé. C'était le dernier train. Parce qu'on avait le droit qu'à celui-là, parce que dans celui d'avant, il y avait beaucoup trop de monde. Ça s'appelle une scène difficile à tourner.
Alors, le choix de Thélo et de Sabrina, ils sont incroyables tous les deux. Ça a été une évidence aux essais.
Ah, il n'y a pas d'évidence, non, il n'y a jamais d'évidence. Sabrina, elle était un diamant brut, il y avait tout à faire, elle n'avait jamais rien fait de sa vie. Elle me touchait, mais elle n'avait aucune technique, et ce que je demandais, c'était de se plonger dans le personnage à 100%. Et elle se plongeait dans le personnage, mais à 80%, et c'est les 20% qui font vraiment la différence. Pour s'y mettre à fond, ça demande un engagement dingue, un lâcher-prise total, elle avait du mal à le trouver. Et puis, pendant ses essais, puis ses répétitions et tout, il y a un moment où elle a senti qu'elle n'y arrivait pas à faire ce que je lui demandais, à trouver l'état que j'essayais de lui faire trouver. Et elle s'est dit, il va pas me prendre. Et les larmes sont venues, mais les larmes qu'elle a retenues, hein, elle s'est pas mise à pleurer. Hein. Ses yeux se sont embués et j'ai vu qu'elle était profondément attristée par ça. Hein. Je lui dis, tu vois, cet état-là, d'intensité que t'es en train de vivre, là, c'est ça qu'il faut. Repart au bout, là-bas, on recommence la scène. Elle l'a fait. Elle a, pour elle, c'était facile, parce qu'elle était dans l'état. On a coupé. Je lui ai fait comme ça avec mon petit pouce pour lui montrer que c'était bien. Puis je lui ai dit, voilà, maintenant, est-ce que t'es capable de refaire ça? Elle a réfléchi pendant 5 secondes, elle me dit j'espère, je crois, peut-être. Et quand elle a eu trouvé ça, elle a trouvé tout le reste, tous les autres moments.
Elle a eu toutes les clés.
C'était simple parce qu'elle savait, elle connaissait le bout de l'histoire pour elle, le bout de ses sensations. c'était formidable. Voilà, et puis après, c'est une belle personne. Et donc, ça se voit à l'écran, quoi. Et Telos, pareil. C'est-à-dire, quand je les ai mis en face l'un de l'autre pour répéter une scène, quelque chose s'est passé. Et quand le soir, j'ai raccompagné Sabrina, et on est monté dans la voiture, et je lui ai dit... parce qu'on avait vu un autre garçon la veille. Moi, je m'étais déjà fait mon idée, mais je voulais qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Et je lui ai dit, avec duquel des deux tu te sens le plus proche? Elle me dit, tu me poses la question? Ben, j'ai trouvé ça formidable. C'était évident, quoi. Évident.
C'est ça qui est chouette. On va les recevoir, justement. On va aller écouter la bande-annonce, Philippe. Ça s'appelle 16 ans. Le film sort au cinéma et Sabrina et Telo vont nous rejoindre juste après, voilà, pour parler, continuer à parler d'une de leurs personnages, de leur expérience aussi sur ce tournage. Et puis merci, en tout cas, pour ce magnifique film que vous avez signé ici, Philippe. Merci.
Merci à vous, surtout.
16 ans, c'est au cinéma, on écoute tout de suite la bande-annonce.
Tu sais qui c'est lui? C'est le fils du directeur de l'hyper. Son connard de père, il m'a viré.
Putain, mais t'as fait quoi encore?
Tu traînes plus avec lui, point final.
Arrête, t'as viré un type à l'hyper?
Parce qu'il a piqué une bouteille.
Et on vire quelqu'un pour ça.
C'était qui les autres? Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te venger, c'est ça?
Je me suis pas vengé, je vous dis.
Léo?
Ok, 100 balles.
Démarrer 2023 sur Attitude, Attitude, Attitude,
Attitude. Et on va continuer à parler du film 16 ans après Philippe Lioré qui était avec nous. Eh bien, on va enchaîner avec les comédiens Sabrina Devoix et Telo Azaïs qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut, salut.
On va parler évidemment de Léo et de Nora. C'est vraiment un Roméo et Juliette des temps modernes que vous nous proposez avec ce film 16 ans. C'est histoire d'amour impossible entre ces deux personnages. On a planté le décor avec Philippe, mais moi j'aimerais déjà savoir un petit peu ce qui vous a plu dans le scénario à tous les deux. Sabrina.
Alors ce qui m'a plu dans le scénario en premier, donc c'est vraiment l'histoire d'amour qu'il y a entre Nora et Léo. Donc cette histoire impossible qu'on se bat pour vivre cette relation qui est compliquée.
Qui est assez dingue. Vous allez voir tout au long du film. Alors, est-ce que ça se terminera bien ou est-ce que ça se terminera pas mal? On ne sait pas. C'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette histoire qui est assez complexe. Toi, Telo, qu'est-ce qui t'a fait dire oui tout de suite? Parce que ça change, hein, de c'est quoi cette mamie à si grand soleil. T'as eu un rôle des fois, des fois un peu compliqué sur ton personnage. Mais là, on est encore dans autre chose. Hein.
Ah oui, non, c'est sûr que ça change. Après, ce qui m'a vraiment plu, c'est justement, ouais, comme elle disait Sabrina, c'est cette histoire d'amour folle, en fait, au premier regard, et justement ces deux amoureux qui se battent jusqu'au bout pour leur amour. Bah bien après, bien sûr, il y a toute l'histoire autour qui met en scène tout le film, et c'est ça qui m'a plu vraiment. Après, toutes les personnes avec qui on était, c'était incroyable, donc ça a confirmé mes envies.
Bon, pour resituer un petit peu juste l'histoire pour ceux qui étaient peut-être pas avec nous là il y a quelques minutes, on y suit le coup de foudre de Léo et Nora. Nora qui habite plutôt dans une cité avec une famille, Léo qui est plutôt dans une famille aisée où le père est patron d'un hypermarché, directeur d'un hypermarché. Donc plutôt issu d'une famille aisée, deux mondes qui ne sont pas forcément faits pour être ensemble et qui vont pourtant contre vents et marées essayer de s'aimer. Et puis juste au moment où le frère de Nora qui travaille dans cet hypermarché est accusé de vol, justement ou injustement, c'est ce qu'on verra dans le film en tout cas. Et puis là, tout s'embrase et on est vraiment sur un Roméo et Juliette, c'est ce que je disais, des temps modernes. Cette histoire d'amour qu'on suit et son évolution, elle est teintée de violence aussi, elle est teintée à travers le frère de Nora qui lâche rien pour tenter de les séparer aussi, sans parler évidemment de ses parents aussi, joué par notamment Arsène Mosca. Il y a eu des scènes assez folles entre vous deux, quoi.
Oui, il y a eu des scènes assez folles où justement j'essayais de tant bien que mal de me battre pour que ça marche, et elle de son côté c'était pas assez simple, mais je pense qu'elle pourra en parler un peu mieux que moi quand même.
Sabrina, Nora.
Ouais.
On va dire que c'est une jeune fille libre, quoi, hein, réellement.
Non, c'est pas une jeune fille libre. C'est vrai qu'il y a beaucoup son frère qui se sent incompris, donc il va mettre toute sa colère envers sa sœur. Enfin, son frère va tout faire pour qu'elle puisse pas vivre sa relation avec Léo. Et ce qui est bien, c'est que Léo, il lâche pas l'affaire, il est toujours là pour Nora et il va faire en sorte que tout se passe bien.
C'est ça qui est beau. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit vos personnages par vous. Donc, comment toi, par exemple, Tello, tu définirais Nora, le personnage de Nora?
Nora. Alors, comment je pourrais définir Nora? C'est quelqu'un qui est assez assez sensible, protectrice, gentille, très bienveillante et qui veut très amoureuse aussi.
Ouais, c'est une jeune fille bien dans ses baskets, hein, malgré tout, c'est sûr. Hein. Et alors, maintenant, on va essayer de voir le personnage de Léo par Sabrina.
Alors, Léo, pour moi, c'est quelqu'un qui est très attachant. On s'attache très vite à ce personnage. Et c'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui va essayer de toujours protéger Nora aussi. Il sera toujours là pour les autres. Il va toujours la défendre.
Votre meilleure scène, votre plus belle scène pour vous, ou celle qui vous a peut-être le plus impressionné lors de la première projection, par exemple, sur le grand écran? Parce qu'il y a des fois, entre ce qu'on tourne et ce qu'on voit, quand c'est monté sur grand écran, ça change des fois un peu la donne. Tello.
Alors, à tourner, je dirais toute la scène de la gare.
De la fin? C'est ça, la scène de... Ouais, alors, on va pas en dire beaucoup plus, mais...
Beaucoup plus, c'est pour ça que je m'arrête là. Et à regarder, pareil.
Sinon, t'es alerte, hein, tu crapahutes bien, comme on dit, hein,
Ça va, j'ai des...
T'es bon en escalade.
J'aime bien.
Pour toi, Sabrina.
À voir la scène avec mon petit frère, et aussi celle de la gare.
Qui la scène est... avec ton petit frère, quand tu lui dis que tu t'en vas.
Ouais, qui est très prenante. Et celle où j'ai beaucoup aimé tourner, je pense que c'était les moments de complicité avec Léo, où c'est très intense, très, très intime, et voilà, ça montre vraiment l'amour qu'on a l'un pour l'autre, quoi.
Oui, il y a des scènes effectivement qui sont très très fortes. En tout cas, regardez, des beaux souvenirs, en tout cas j'en suis sûr, de ce tournage. Est-ce que ça vous donne en tout cas envie de persévérer en tout cas dans ce domaine-là, pour toi notamment, Sabrina? Parce que quel parcours tu avais avant 16 ans? Est-ce qu'on t'a vu dans d'autres choses?
Non, pas du tout.
C'est ton premier film?
C'était mon premier film, mon premier casting, donc le premier rôle. Donc oui, moi clairement, ça m'a clairement donné envie de continuer dans le cinéma. Pour moi, faire Nora dans mes premiers pas au cinéma, c'est juste incroyable. Donc j'espère pouvoir continuer.
Bon, Tello, les projets, évidemment, Tello, lui, on le voit dans Un si grand soleil régulièrement, bien évidemment. Et puis il y a aussi la trilogie des C'est quoi cette famille, c'est quoi cette mamie, c'est quoi ce papy. Est-ce que Gabriel, Julien Ferrière nous préparait un petit quatrième opus ou pas pour l'instant? C'est un peu bouclé l'histoire.
Oh non, je crois pas. Je crois qu'on va s'arrêter là.
Ouais, tu crois que la famille pour l'instant a dit tout ce qu'elle avait à dire?
Je pense, ouais. Je pense qu'on est arrivé un peu à faire le tour. Ouais.
Bon, en tout cas, est-ce que t'as des beaux projets pour 2023 qui nous attendent?
Ah bah déjà la sortie de 16 ans. Sinon on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve.
Bon, ça sera l'occasion pour toi de revenir nous en parler.
Oui, j'espère.
Bon, en tout cas, on croise les doigts pour toi, Sabrina. Franchement, premier rôle, dingue ce que t'as fait. Bravo à vous deux. Et je vous conseille vraiment ce film 16 ans. Ça sort mercredi dans les salles. Très très beau film à ne pas manquer, bien évidemment. Avec Sabrina Devoy, Tello Azaïs, Jean-Pierre Lory. Il y a beaucoup de beau monde. Arsène Mosca, Marie Dompnier et plein de beau monde en tout cas qui vous accompagne dans ce joli film. Merci à tous les deux.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et du beau monde, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé avec Julien Guetta et Grégoire Ludig pour la sortie du film Les Cadors. Marc Fitoussi et Olivia Cotte seront également avec nous pour nous parler de la sortie du film Les Cyclades. Nous consacrerons une spéciale à la série Toulouse-Lautrec qui va faire son arrivée sur TF1. Bref, je vous promets, on va pas s'ennuyer.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com, et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.